RFI, grand reportage.
C'est que plus personne ne veut aller à l'hôpital parce que tu rentres vivant et tu ressors mort. Le cousin de ma sœur, par exemple, il est allé à l'hôpital à cause de son diabète, pas du tout à cause du Covid. Et 2 heures plus tard, il était intubé et il est mort le lendemain. Moi, je dis qu'il y a un truc qui cloche. Dans mon quartier, 20 de personnes sont mortes, mais avec tout ce qui s'est passé dans cet hôpital de Las Américas, personne n'a voulu aller à l'hôpital.
Grand Reportage s'intéresse aujourd'hui à un phénomène mondial, la désinformation. Dans le sillage de la pandémie de coronavirus, cette autre pandémie n'épargne aucun pays et peut avoir de graves conséquences. Illustration au Mexique, où les infox ont aggravé la crise de confiance entre les citoyens et leurs institutions. Le virus de la désinformation touche le Mexique. C'est un grand reportage d'Alix Hardy.
C'est une chaude journée de septembre et les acheteurs ont réinvesti les rues commerçantes du centre de Mexico, divisées par produits. Ici, la rue des matelas, là, celle des bijoux, là-bas, celle des fournitures scolaires. Devant chaque devanture, un même rituel désormais, la prise de température. Mais ici, les vigiles dirigent le thermomètre infrarouge sur le poignet des clients et non sur leur front, comme le recommande le mode d'emploi.
Si on prend la température sur le front, les gens deviennent agressifs. Ils pensent que c'est comme des rayons X, que ça va leur faire du mal. C'est à cause de cette rumeur qui dit que ça détruit les neurones. C'est faux, mais comme les gens croient tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux et les groupes familiaux de WhatsApp, un message audio a largement circulé.
En la semaine, vas au super et te sont radiando précisément en la cabeza.
T'es-tu demandé combien de fois par jour tu t'exposes aux rayons ? Interroge une voix masculine. Dans le sillage de la pandémie de coronavirus, une vague de désinformation a submergé la planète entière. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé l'a rebaptisée infodémie. Au Mexique, Hugo López-Gatell, vice-ministre de la Santé à la tête de la stratégie de lutte contre la pandémie, avertissait début juillet.
L'infodémie, c'est comme une épidémie de désinformation. Ce sont de grandes vagues de fausses informations qui se propagent. Malheureusement, le Mexique ne fait pas exception. La désinformation est alimentée par des groupes motivés par des intérêts politiques et sociaux. L'infodémie peut tuer. Il y a une partie de la population qui ne croit toujours pas au virus. Si on les nourrit délibérément de fausses informations, cela pourrait avoir de graves conséquences.
Au Mexique, la désinformation n'est pas un phénomène inconnu. Ana Rolón, fondatrice d'une agence de communication spécialisée dans les réseaux sociaux, l'a déjà combattue sur plusieurs fronts.
Je travaille sur le sujet depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, pendant la campagne présidentielle, j'ai combattu la désinformation électorale. Les gens nous envoyaient des informations et on confirmait si c'était vrai ou non. Évidemment, en période électorale, les intentions derrière les infox sont assez évidentes. En 2017, après le tremblement de terre qui a touché Mexico, on avait monté une initiative de fact-checking aussi. Pas tellement pour combattre la désinformation intentionnelle, mais plutôt pour organiser le flux d'infos qui saturait les réseaux, pour sauver des vies, organiser des collectes. Aujourd'hui, pendant cette pandémie, on voit bien que les motivations derrière les infox sont beaucoup plus complexes et variées.
Avec d'autres vétérans du fact-checking, Ana Rolón a lancé en mars Vérifie Covid, un programme de vérification qui combat la désinformation sur son propre terrain, WhatsApp. Au Mexique et dans toute l'Amérique latine, ce service de messagerie est massivement utilisé. L'application remplace les textos, on peut y prendre un rendez-vous médical, faire ses courses, trouver un job et s'envoyer de fausses informations.
On s'est rendu compte qu'il fallait une riposte. À la mi-mars, on recevait déjà de plus en plus de chaînes de fausses informations à travers WhatsApp. On s'est dit, il faut faire quelque chose. On envoie chaque jour un message vocal avec les informations utiles du jour et des fausses informations qu'on dément.
En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación.
Esta es la nota 157.
Son muchísimas y cada vez.
Les infox sont très nombreuses et elles arrivent encore à nous surprendre par leur variété. Il y en a qui parcourent des milliers de kilomètres, des fausses informations très travaillées, qu'on voit par exemple d'abord en Colombie, puis adaptées au Mexique, avec des expressions propres, comme les noms exacts des institutions mexicaines.
Une des premières infox qu'a relevé l'immunologiste Francisco Espinosa, qui travaille dans un cabinet privé de Mexico, venait d'ailleurs tout droit de France.
La première infox à laquelle j'ai été confronté et qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier est venue du ministre de la Santé français quand il a dit que prendre de l'ibuprofène pouvait être dangereux en cas de Covid. Cela venait du fait que parmi les premiers décès du Covid en France, il y avait 4 patients qui en avaient pris. Mais la déclaration du ministre a été trop hâtive et injustifiée sur le plan de la causalité. Après ça, plusieurs de mes patients ont refusé de prendre de l'ibuprofène de peur que ça les mette en danger s'ils attrapaient le Covid. C'était impressionnant.
Le docteur Olivo Iglesias est médecin généraliste indépendant. Il fait partie de l'équipe Vérifie Covid.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est la portée de la désinformation et les conséquences qu'elle a au sein de la population. C'est fortement corrélé à la composition sociale du pays. Si on regarde les caractéristiques socio-économiques de la population mexicaine et sa formation, on s'aperçoit vite que c'est loin d'être le public le plus éduqué.
Au Mexique, 42% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Moins de 6 foyers sur 10 ont Internet.
Un autre élément fondamental pour comprendre, c'est la brèche éducative qui existe depuis très longtemps au Mexique.
Felipe Evia est anthropologue. Il a étudié le système éducatif du Mexique.
Dans la dernière étude PISA, le test de lecture comportait justement une partie sur la capacité à identifier ou non une fausse information. Moins de 1% des jeunes Mexicains ont réussi ce module. Il y a des lacunes profondes dans les apprentissages de base et dans la compréhension de textes au Mexique qui expliquent en partie non seulement la présence de fausses informations, mais aussi leur crédibilité dans le pays.
Au Mexique, la désinformation a montré qu'elle pouvait avoir des conséquences graves. Elle éloigne les patients des hôpitaux, provoque des agressions contre les soignants et conduit les plus inquiets à ingérer des pseudo-remèdes dangereux. Durant le printemps, plusieurs municipalités du pays ont refusé que les autorités désinfectent l'espace public à l'aérosol. Comme ici, dans plusieurs quartiers de San Cristobal de las Casas, la capitale du Chiapas, dans le sud du pays.
Nous sommes en train de patrouiller parce que nous ne voulons pas que les autorités viennent fumiger chez nous. Nous sommes 7 quartiers réunis et nous n'allons pas leur permettre d'entrer.
Dans certains cas, la psychose a mené à des heurts avec les autorités. Dans le Chiapas et l'Estado de México, qui entoure la capitale, Mexico, certains habitants ont brûlé des voitures de police et vandalisé des hôpitaux locaux.
Le maire fait tuer les gens ici. Il dit que c'est le coronavirus. Mais c'est un mensonge, il n'y a pas de virus.
Tous étaient persuadés que les autorités venaient répandre le virus à dessein. Comme l'affirme cette femme dans un message audio dont plusieurs variantes ont largement circulé.
Salut, le père de mes enfants vient de me prévenir parce qu'il connaît quelqu'un chez les militaires. Il dit que demain, ils vont commencer à pulvériser le virus dans l'air pour contaminer les gens et pour en finir avec le plus de monde possible, pour qu'ils meurent donc. Chez les militaires, tout le monde sait qu'il s'agit en fait d'en finir avec la surpopulation. C'est pour ça que ça se passe de pays en pays et maintenant, c'est au tour du Mexique. Donc, il faut faire très attention et essayer de sortir le moins possible.
Au Mexique, la désinformation s'engouffre dans des brèches déjà existantes, comme la fracture qui existe de longue date entre le peuple et ses institutions, rappelle Felipe Evia.
Si on devait qualifier d'un mot la relation entre le peuple mexicain et ses autorités, ce serait méfiance, et à raison. Le Mexique a une longue tradition de gouvernements qui ont agi au détriment des citoyens, et un élément caractéristique des fausses informations, c'est d'avoir l'air crédible. Et la probabilité d'une autorité qui agit contre le bien public pour assurer ses intérêts est beaucoup plus grande au Mexique qu'ailleurs.
Une défiance envers les autorités qui donne du fil à retordre aux fact-checkers, souligne Fernanda Estrada, journaliste à Animal Politico, un média mexicain en ligne de référence.
Les infox qui impliquent les autorités sont les plus dures à démentir, puisque la source officielle est justement celle qui est mise en cause. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller au-delà du simple démenti. Par exemple, cette publication qui affirme que la Covid se guérit avec des vibrations. Il y a eu des études sur le sujet qui disent que ça ne marche pas. A priori, c'est suffisant comme argument, mais c'est important de comprendre d'où sort cette info et pourquoi les gens y croient. Du coup, on a pris le temps d'évaluer 3 types de vibrations et d'expliquer pourquoi il était impossible que ça marche. Au lieu de couper court, on a déconstruit l'information et donné des outils aux lecteurs pour comprendre. Souvent, la désinformation vient d'une personne qui n'est pas la même que celle qui lira le démenti. Par exemple, c'est la tante qui va partager l'infox et c'est sa nièce qui va lire notre article et qui va lui expliquer pourquoi c'est faux. On a construit nos articles pour qu'ils soient suffisamment clairs pour être transmis de bouche à oreille.
La gestion initiale de la pandémie par les autorités a ajouté à la confusion. Pour éviter la saturation du système de santé, elles ont longtemps déconseillé aux citoyens de se rendre à l'hôpital en l'absence de symptômes graves. D'autres ambiguïtés, comme l'absence de directives claires au sujet du port du masque, ont cultivé un flou propice aux informations non vérifiées. Le président López Obrador lui-même a eu son lot de déclarations trompeuses, comme lorsqu'il a hâtivement affirmé que le pays avait maîtrisé la pandémie.
Vamos bien, ya se domó la pandemia.
C'était fin mai, alors que la pandémie a montré de timides signes d'affaiblissement seulement 3 mois plus tard, en août. Le personnel soignant est probablement la catégorie qui souffre le plus des fausses informations. Leur expertise, voire leur honnêteté, est mise en doute par de nombreux patients qui n'ont pas confiance dans le système de santé du pays. Damaris Navarro est médecin. Depuis mars, elle travaille au sein de l'unité Covid de l'hôpital public Valentín Gómez Farias de Zapopan, dans l'ouest du pays, où elle examine les patients à leur arrivée.
Ce matin-là, j'examine un monsieur qui a des taches sur les poumons, qui pourraient provenir du Covid. Il faut donc lui faire un test. Mais sa femme se met à s'agiter en disant que non, qu'on veut tuer son mari et que si son mari doit mourir, ce sera chez lui, veillé par sa famille. Et le couple est parti. Moins de 20 minutes plus tard, la dame revient en courant car son mari s'est évanoui dans la rue. Le temps que les brancardiers arrivent, il était décédé. Nous, les médecins, on est en première ligne et ce genre d'affirmation nous use, nous démotive. En bref, l'ignorance tue. Je savais que le pays avait des lacunes, mais je ne pensais pas que cette pandémie déclencherait une telle désinformation.
Comment une frange de la population mexicaine en est-elle arrivée à se persuader que les hôpitaux se débarrassent volontairement de leurs patients? Une fois de plus, il faut chercher des éléments de réponse du côté de l'histoire du pays, et plus particulièrement de son système de santé inégalitaire, explique le docteur Olivo Iglesias de Vérifie Covid.
Une des grandes critiques au Mexique, qui va de pair avec l'inégalité de la distribution des richesses, c'est l'inégalité des soins dans le public. Ceux qui sont à l'échelon le plus bas sont généralement les plus pauvres, et ils savent pertinemment que leur droit à la santé est loin d'être garanti. C'est tout à fait en lien avec ce qui se passe actuellement. Les patients qui aujourd'hui ont peur de se rendre à l'hôpital sont ceux qui bénéficient de la moins bonne couverture santé. Cela donne des patients qui sont dans un état grave chez eux et qui refusent catégoriquement d'être emmenés à l'hôpital. On en arrive là. Les patients me le disent tout net. Docteur, je ne vais pas à l'hôpital parce qu'ils vont me tuer.
La désinformation a prospéré sur ce terrain déjà fertile. Les hôpitaux publics, qui manquaient de personnel déjà bien avant la pandémie, ont été rapidement submergés de malades.
Les gens disent que la prise en charge dans le public n'est pas la meilleure. Mais c'est que nous, on a trop de patients à gérer. Chaque cas demande de l'attention et du temps. Mais tant qu'on sera obligé de faire du volume, ce sera impossible de leur fournir une attention optimale. Le temps que je vois un patient, j'en ai 5 qui sont arrivés entre-temps.
Pour les patients et leurs familles, le sentiment d'être mal pris en charge est tenace. Un sentiment renforcé par le nombre important de décès à l'hôpital. Dans les hôpitaux publics de l'Institut de sécurité sociale, qui couvre un peu plus de la moitié de la population, plus de 4 patients Covid sur 10 meurent à l'hôpital, contre à peine plus de 15% dans le privé. Bien sûr, il n'y a pas que la qualité de l'attention médicale qui pèse sur cette statistique. La survie dépend aussi du degré de gravité du patient, de son profil ou encore de son état de santé général. Mais la perception qui reste, c'est celle que résume Doña Leo, commerçante du centre de la capitale, la psychose de l'hôpital.
C'est que plus personne ne veut aller à l'hôpital parce que tu rentres vivant et tu ressors mort. Le cousin de ma sœur, par exemple, il est allé à l'hôpital à cause de son diabète, pas du tout à cause du Covid. Et 2 heures plus tard, il était intubé et il est mort le lendemain. Moi, je dis qu'il y a un truc qui cloche. Dans mon quartier, 20 de personnes sont mortes, mais avec tout ce qui s'est passé dans cet hôpital de Las Américas, personne n'a voulu aller à l'hôpital.
La vidéo dont parle Doña Leo est l'un des cas les plus saillants de désinformation durant la pandémie. Début mai, un jeune homme nommé Alexis est admis à l'hôpital public de Las Américas, dans la banlieue défavorisée de Mexico. À l'époque, le Covid frappe dur et l'hôpital est débordé. 24 heures après son admission, sa famille n'a aucune nouvelle et des rumeurs le disent décédé. Plusieurs proches de patients décident alors de forcer l'entrée de l'hôpital.
Hey, ben,
Il pénètre dans l'enceinte où se trouvent plusieurs corps dans des housses mortuaires. La psychose est totale. La mère d'Alexis découvre elle-même la dépouille de son fils. Aux télévisions, accourue sur les lieux, elle déclare, sous le choc, que l'hôpital a délibérément tué son fils.
Nous voulons qu'on nous rende la dépouille de mon fils, parce qu'on sait très bien que le Covid n'existe pas. Mon fils, on lui a injecté quelque chose pour le tuer, j'en suis persuadée.
Des propos qu'elle rectifiera 3 jours plus tard. Mais trop tard, la vidéo initiale a fait le tour du pays, et les accusations d'une mère étourdie par le deuil et la douleur sèment le doute dans des milliers de foyers. Les plus démunis n'ont pas l'apanage de la désinformation. D'autres peurs ont fait leur chemin chez ceux qui ont les moyens, pointe le docteur Francisco Espinosa.
Les gens les plus aisés se font aussi avoir. Dans mon cabinet, je vois surtout des patients qui ont beaucoup de moyens. Eh bien, 9 sur 10 ont chez eux tous les médicaments qui ont été présentés à un moment ou à un autre comme susceptibles de guérir le virus. L'ivermectine, l'hydroxychloroquine, des antiviraux qui ne servent à rien. Les plus riches en ont tellement acheté que ça a créé des pénuries.
Un remède en particulier fait fureur, le dioxyde de chlore. C'est peut-être l'infox la plus répandue sur le continent américain.
J'ai des patients aisés qui me demandent où trouver du dioxyde de chlore. Ils disent « qu'importe le prix, docteur, mais dites-moi où le trouver ». Il y a beaucoup de travail à faire sur la désinformation, quel que soit le niveau socio-économique des gens.
Ce cousin de la Javel est un agent blanchissant et désinfectant. En aucun cas, il n'est fait pour être ingéré par l'être humain, rappellent les agents sanitaires du continent. Il peut causer des irritations, des vomissements sévères, une insuffisance respiratoire, cardiaque ou rénale grave. Et pourtant, le produit, promu depuis des années comme un remède miracle à des tas de maladies, connaît un regain de popularité avec la pandémie.
Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias.
L'animatrice Ethel Soriano présente une émission estampillée santé sur une radio privée mexicaine. En mai, elle recevait un grand promoteur du dioxyde de chlore, l'allemand Andreas Kalker.
Aujourd'hui, nous allons parler du dioxyde de chlore avec le scientifique allemand Andreas Kalker, qui a plus de 13 ans d'expérience sur le sujet et qu'on a souvent essayé de faire taire.
Bonjour depuis la Suisse. Oui, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais si on me ferme la porte, je passerai par la fenêtre, parce qu'il est crucial que ce produit qui a sauvé tant de vies déjà, surtout avec le Covid, soit accessible à tous.
Donc, on parle d'un produit qui a montré des résultats, mais on vous empêche d'en parler alors que cela pourrait aider à combattre les virus et les bactéries.
Oui, surtout qu'à ce jour, il n'existe aucune mort scientifiquement imputée à l'ingestion de ce produit.
Mais pourquoi ne veut-on pas que les gens connaissent ce produit? Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Comme cette substance est bon marché, vous marchez sur les plates-bandes des grandes compagnies pharmaceutiques.
Aucun décès dû au dioxyde de chlore? L'argument désormais ne tient plus. En août, c'est une présentatrice argentine qui a terminé son émission en buvant à l'antenne ce qu'elle a affirmé être du dioxyde de chlore. Quelques semaines plus tard, un petit Argentin de 5 ans est décédé. En cause, le dioxyde de chlore que ses parents lui avaient administré. Sur le continent, le produit est soupçonné dans une dizaine de décès. Et pourtant, il ne cesse de gagner du terrain. Comme en Bolivie, où les législateurs du pays ont voté sa légalisation. Face à l'ampleur du phénomène, les gouvernements ripostent. Le Mexique a lancé début juillet une émission baptisée Infodemia, soutenue par l'Organisation des Nations Unies, diffusée chaque semaine. Elle vise à éduquer les citoyens sur le sujet et dément les infox hebdomadaires. Ces dernières semaines, les fausses informations, qui se métamorphosent à la vitesse de l'éclair, se concentrent sur les vaccins. Des vaccins qui viseraient par exemple à nous contrôler en introduisant des nanoéléments dans notre sang. Un nouveau front qui s'ouvre dans une bataille planétaire où les institutions démocratiques jouent leur légitimité.
Le virus de la désinformation touche le Mexique. Un grand reportage d'Alix Sardi, réalisation Eva Piedel.